Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chimons, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Mon être est brisé, je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Dans cette série de traductions de 12 études intitulée « Pèlerinage à travers l'Épître aux Romains », Derek Prince nous entraîne dans un voyage à travers les 8 premiers chapitres. Vous serez à la fois inspiré et mis au défi. Voici maintenant la première étude.
C'est avec un sentiment de grand enthousiasme que je commence cette première session de notre étude sur l'Épître aux Romains, du chapitre 1 à 8. Je peux vous assurer que la responsabilité d'interpréter cette épître si merveilleuse pour le peuple de Dieu est très sérieuse. Mon souhait le plus cher et ma prière sont d'être trouvé à la fois fidèle à la parole de Dieu et sensible à son esprit. J'ai préparé les grandes lignes de cette étude intitulée « Le pèlerinage à travers l'épître aux Romains » et j'expliquerai un peu plus tard le pourquoi de ce titre. J'aimerais commencer en lisant l'introduction que vous trouverez sur la première page intérieure du livret Bienvenue au pèlerinage à travers l'Épître aux Romains. Nous voici en route pour un voyage dans le royaume de l'Esprit. Il va vous inspirer et vous mettre au défi. Parfois ce sera dur. Il vous fera passer à travers les profondeurs les plus ténébreuses de la dépravation humaine, puis sur les hauteurs lumineuses de la grâce et de la gloire de Dieu. L'Épître aux Romains allie de façon unique l'aspect spirituel et l'aspect intellectuel. Elle est sans parallèle dans la littérature humaine, et contient les vérités spirituelles les plus sublimes, exprimées en termes parfaitement logiques. Elle ne va pas seulement illuminer votre esprit, mais également mettre au défi votre intelligence. C'est pour cela que cette épître ne révélera pas ses richesses à travers une lecture inattentive ou superficielle. Si vous voulez accomplir ce pèlerinage avec succès, il vous faut deux équipements spirituels essentiels, la prière et la persévérance. Laissez-moi donc vous encourager par les paroles de Dieu à Josué, quand il se préparait à entrer dans la terre promise. Fortifie-toi seulement et prends courage. Nous allons maintenant voir la page suivante du résumé. Tout d'abord, j'aimerais souligner que le thème central des Romains peut se résumer en un mot, justice. C'est un mot très, très important. La Bible a beaucoup de choses à dire à propos de la justice. Dieu est toujours présenté comme un Dieu de parfaite justice. En parlant aux enfants d'Israël, Moïse dit « Ses voies sont parfaites et toutes ses œuvres sont justes ou droites. » Le psaume 92 dépeint celui qui a grandi dans la connaissance et le service de l'Éternel pour faire connaître que l'Éternel est juste et il n'y a point en lui d'iniquité. Avant d'aller plus loin, il faut que je m'arrête sur le sens des mots que nous allons utiliser. En français, nous avons deux mots, « droit » et « juste » qui sont un peu différents dans leur signification. Mais dans la langue originale de la Bible, à la fois dans l'hébreu de l'Ancien Testament et dans le grec du Nouveau Testament, il n'y a qu'un mot qui est tzedek et en grec dikaios. Ce mot peut être traduit soit par droit, soit par juste. Il n'y a pas de différence. Nous devons donc ajuster notre pensée. Il est possible de faire une différence entre la justice et la droiture. La droiture, dirons-nous, est un trait de caractère moral. La justice est l'action des lois de Dieu et leur application dans nos vies. Et il n'y a pas de différence dans le langage original. Ainsi, quand nous parlons de la droiture, nous parlons aussi de la justice, et quand nous parlons de la justice, nous parlons aussi de la droiture. Il y a quelques années, je me suis arrêté dans le livre de Job, au chapitre 9 et au verset 2, à cette question prophétique. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Job était angoissé, et je crois qu'il posait la question sans croire à une réponse. Mais en fait, Dieu a donné la réponse à cette question. Comment un homme serait-il juste devant Dieu? C'est le thème de l'Épître aux Romains. Elle nous dit comment il est possible pour toute personne qui remplit les conditions de Dieu, décrites dans Romains, d'être totalement juste devant Dieu. L'une des expressions clés dans Romains que nous retrouvons est « Il n'y a pas de condamnation, il n'y a plus de condamnation ». c'est vraiment la conséquence pratique de cette épître. Que vous puissiez réaliser que vous êtes accepté devant Dieu comme étant totalement juste et qu'il n'y a plus aucune condamnation nulle part dans votre vie. L'épître aux Romains fait aussi référence, je pense, aux paroles de Jésus dans Matthieu, chapitre 5, verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ils seront abondamment satisfaits. Alors je veux dire à tous ceux qui ont soif de justice que Dieu a promis de vous satisfaire. Cependant, je suppose que certains d'entre vous ne pensaient pas à la justice jusqu'à maintenant. Vous voyez, je voyage beaucoup parmi le peuple de Dieu. Je rencontre des gens de différents milieux, de différentes nations. Je ne peux pas dire que la justice occupe une place prépondérante dans les priorités de l'Église contemporaine. Je rencontre des gens qui recherchent une bénédiction, la puissance, la guérison, la prospérité, les dons spirituels. Mais je rencontre peu qui ont vraiment faim et soif de justice. Qui disent, je ne serai satisfait que si je trouve la justice. Ceux-là n'ont pas seulement faim, ils ont soif. En fait, tout leur être soupire après la justice. J'espère qu'avant la fin de ces études, plusieurs connaîtront un changement dans leur ordre de priorité et auront une bien plus grande estime de la justice. Vous voyez, les autres choses découlent de la justice. Dans un passage de Romains que nous n'aurons pas le temps d'étudier en détail, au chapitre 14 et au verset 17, Paul disait, « Car le royaume de Dieu, c'est... » Et quel est le premier aspect du royaume de Dieu ? La justice, suivi de la paix et la joie. Vous ne pouvez pas changer l'ordre et obtenir les mêmes résultats avec Dieu. Si vous mettez la paix ou la joie en premier, Dieu n'est pas d'accord avec vous. Dieu dit que si vous cherchez d'abord la justice, alors la paix et la joie suivront. Maintenant, j'aimerais vous donner un bref résumé de l'entière épître. D'abord, les exégètes pensent qu'elle a été écrite en 57 après Jésus-Christ dans la ville de Corinthe. Il est fait mention d'un Romain d'un homme appelé Éraste qui était le chambellan ou le responsable des travaux publics de la ville de Corinthe. Récemment, des archéologues ont découvert à Corinthe une inscription portant le nom d'Éraste, lui attribuant des œuvres publiques faites à ses propres frais. Merveilleuse confirmation de la précision et de la fiabilité des Écritures. J'aimerais étudier cette épître en la divisant en quatre parties principales. Bien que je cite les quatre, nous ne traiterons que la première. Elle couvre les huit premiers chapitres et présente la base scripturaire et logique de l'Évangile. Des chapitres 9 à 11, nous voyons la relation de Dieu avec Israël. Certains exégètes y ont vu un complément irrévérencieux, mais je ne le vois pas ainsi. Je crois que les relations de Dieu avec Israël sont une partie essentielle de la vérité de l'Évangile. Je pense qu'il est faux de considérer que les chapitres 9, 10 et 11 sont une addition, comme si Paul tout d'un coup ne savait plus où il voulait en venir. Rien de tout cela dans l'Épître aux Romains. La question essentielle des chapitres 9 à 11 est l'élection de Dieu. Ce qui en ressort est le facteur ultime et décisif de l'expérience humaine, c'est-à-dire ce que Dieu a choisi. Une vérité très impopulaire dans l'esprit humaniste actuel. C'est en partie la raison pour laquelle Israël n'est pas toujours populaire. La troisième partie des chapitres 12 à 15 est l'application des vérités qui précèdent dans notre vie quotidienne. C'est une caractéristique de tout le Nouveau Testament qui ne présente jamais de théologie abstraite. Quand le Nouveau Testament présente de façon générale une vérité spirituelle ou une révélation, il y a aussi toujours un enseignement très pratique sur la façon de l'appliquer dans nos vies. C'est une caractéristique de Paul de commencer Romains 12 ainsi. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est la mise en pratique de toutes les théologies glorieuses des 11 chapitres précédents. Donnez à Dieu votre corps, c'est une consigne très terre à terre. La partie finale, chapitre 16, consiste en des salutations personnelles suivies d'une bénédiction. Certains considèrent cela comme sans importance. Beaucoup de noms sont cités. Mais je crois que le Saint-Esprit l'a fait exprès pour nous montrer que les relations personnelles sont très importantes. Nous n'avons pas affaire avec l'humanité en masse, ni même avec l'Église dans son ensemble. Par contre, ce sont des relations personnelles, intimes, qui se tissent dans le corps de Christ. Elles ont une immense valeur aux yeux de Dieu. Aucun d'entre nous n'est un numéro pour lui. Quand on m'a appelé pour servir dans l'armée en 1940, On m'a donné un numéro. On m'a enlevé mes habits et on m'a donné ce numéro. À partir de ce moment-là, j'ai été, et ce, pendant 5 ans et demi, le nombre, 7 385 778. Mais Dieu ne fait pas cela avec nous. Vous n'êtes pas un numéro pour lui. Il vous connaît personnellement. Il veut que nous nous connaissions les uns les autres personnellement. Il attache une grande importance aux relations personnelles. Revenons maintenant à la première partie et commençons cette série d'études. Croyez-moi, si nous y arrivons, nous aurons fait là quelque chose d'extraordinaire. Je voudrais que nous considérions les chapitres 1 à 8 comme un pèlerinage spirituel. Il peut y avoir différentes façons de le voir, mais je crois que de cette façon, nous obtiendrons des éléments que nous pourrons assimiler. La destination est Romains 8. C'est la vie contrôlée par l'esprit, la liberté, la joie, la paix, la justice. Les chapitres qui précèdent, 1 à 7, sont les étapes pour parvenir à cette destination. Il m'est souvent arrivé en enseignant sur ces chapitres de comparer leurs différences à celles qui existent entre le café filtre et le café instantané. De nos jours, peu de personnes filtrent encore le café manuellement. Mais Romains 8, c'est le café filtre. Pour l'obtenir, vous devez passer à travers les 7 chapitres qui précèdent. Beaucoup de chrétiens veulent obtenir instantanément Romains 8, mais Dieu ne le donne pas ainsi. Vous ne pouvez pas juste mettre un peu de poudre, verser de l'eau dessus, pour obtenir les mêmes résultats. Il faut passer à travers le filtre. D'une certaine manière, cette étude va ressembler à un passage au travers d'un filtre. Voyons maintenant la première moitié du premier chapitre. Je vais lire les 17 premiers versets. Il y a certaines petites différences dans le texte selon les versions. Ne vous en inquiétez pas. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi, tous les païens parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, et à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Vous remarquerez ceux qui ont le texte, ces mots dans la prédication 2 est en italique. Savez-vous pourquoi? Parce que cela a été rajouté par les traducteurs. J'ai rencontré beaucoup de chrétiens qui ne savaient pas pourquoi certains mots étaient en italique. C'est parce que le traducteur vous montre qu'il les met pour exprimer ces mots en bon français. Personnellement, je préfère qu'il n'y en ait pas. Verset 9. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble, au milieu de vous, par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frère, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais je n'ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Nous pourrions faire une pause ici. Les lettres écrites au temps du Nouveau Testament avaient une mise en page assez semblable à celle des lettres d'affaires d'aujourd'hui. Si vous imaginez une lettre officielle devant vous, en haut à droite, vous avez le nom et l'adresse de la personne qui écrit, ainsi que la date. Un peu plus bas à gauche, le nom et l'adresse de la personne à qui on envoie la lettre. Ensuite, l'objet de la lettre, par exemple, votre candidature pour devenir membre. Ainsi, vous avez ces trois éléments. Le nom et l'adresse de l'expéditeur, le nom et l'adresse du destinataire, et l'énoncé de l'objet de la lettre. Vous trouverez la même chose dans cette lettre aux Romains et dans pratiquement toutes les épîtres du Nouveau Testament, avec parfois quelques variantes. Ainsi, Paul, dans le passage que nous venons de lire, introduit trois choses. Lui-même, l'Évangile et les chrétiens de Rome. Si vous voulez transposer le modèle d'une lettre moderne, en haut à droite, c'est Paul l'apôtre, un peu plus bas, les chrétiens de Rome, puis l'objet de la lettre, l'évangile de Jésus-Christ. C'est comme cela que ça fonctionne. Je pense que nous avons le temps de regarder la façon dont Paul se présente. Puis, lors de notre prochaine session, avec l'aide de Dieu, nous verrons ce que dit Paul sur les chrétiens de Rome et sur l'évangile, qui est d'une importance capitale. Faisons maintenant une pause et regardons l'introduction de Paul, qui se trouve au verset 1 à 5, ainsi que de 9 à 15. Je pense que je dois relire ces versets afin que nous les ayons bien en mémoire. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Puis, au verset 5, en parlant de Jésus, il dit « Par lequel nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom, à l'obéissance de la foi, tous les païens. » Paul se décrit en premier lieu comme un serviteur. Mais le mot grec est le mot « esclave ». Esclave de Jésus-Christ et ensuite « apôtre ». Vous remarquerez que tous les apôtres dans leurs lettres se considèrent toujours d'abord comme serviteurs ou esclaves, et définissent ensuite leur champ d'action particulier, qui dans ce cas précis est l'apostolat. Puis ils continuent avec une autre définition, en disant « mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu ». Paul a exercé une fonction très particulière, en fait unique dans toute l'histoire de l'Église. Son rôle était de présenter dans son intégralité l'évangile. Sa révélation était si grande qu'un peu plus tard, au chapitre 2, verset 16, il l'appellera « mon évangile ». C'est très significatif. Souvenez-vous que Paul avait reçu des révélations si nombreuses que pour le garder humble, Dieu avait dû permettre à un ange de Satan de l'affliger. Je pense que la révélation contenue dans Romains fait partie de cela. Il y a deux épîtres dont Paul est le seul auteur. Dans toutes les autres, c'est Paul et quelqu'un d'autre. Par exemple, Paul, Silas et Tite, ou Paul, Silas et Timothée, mais les deux épîtres dont il est le seul auteur sont les Romains et les Éphésiens. Ce n'est pas un hasard, parce que chacune d'entre elles contient une révélation qui est uniquement la révélation de Paul. Romains est la révélation de l'Évangile et Éphésiens est la révélation de l'Église. Dans ces deux domaines, Paul fait une contribution absolument unique à toute l'Église chrétienne. Je pense qu'il est bon qu'il ait commencé en se présentant comme esclave. Plusieurs dans l'Église d'aujourd'hui pourraient se dire évêque, pasteur ou que sais-je encore. Mais Paul dit en premier lieu et avant toute autre chose, je suis un esclave, entièrement au service de Jésus-Christ. Ma fonction particulière est apôtre. Le domaine particulier de mon apostolat est la révélation de l'Évangile. Puis au verset 5, il dit de Jésus, par qui nous avons reçu la grâce de l'apostolat. Remarquez qu'avant l'apostolat, il y a la grâce. Paul fait très attention de ne jamais se mettre en avant. Il dit que notre domaine particulier de service est l'obéissance, ou la foi, parmi les païens. Ailleurs, il est appelé l'apôtre des gentils. Dans Romains 15, versets 18 et 19, Paul parle encore de l'apostolat envers les païens. On peut le regarder rapidement. Il dit, car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'est pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges. Ainsi, il avait un ministère spécial pour amener les païens à croire en Jésus, et cela par l'attestation du surnaturel. C'est parfaitement vrai, mais si ça ne vient pas de la foi, cela ne marchera pas. Essayez d'obéir à Dieu par vos propres forces, vos propres capacités. J'ai vécu cela sur le champ missionnaire africain. Nous avions beaucoup d'Africains qui essayaient vraiment d'obéir à l'Évangile, mais ils ne le faisaient pas avec foi. Le résultat était la frustration. Alors n'oubliez pas de souligner l'obéissance, mais expliquez toujours qu'elle doit procéder de la foi. Nous avons le temps de nous intéresser au fait que Paul avait bien prié pour que son voyage à Rome se passe parfaitement. L'ancienne version King James dit « pour que j'aie un voyage prospère par la volonté de Dieu ». Il est intéressant de voir que dans la troisième lettre de Jean, chapitre 1, verset 2, Jean utilise le même mot quand il dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. » Je voudrais que vous considériez un moment quel genre de voyage Paul a vécu, car il est très bien décrit dans Actes 27 et 28. Il n'a pas voyagé en première classe, il était prisonnier avec des chaînes. Le bateau sous lequel il voyageait a été pris dans une terrible tempête qui a duré 14 jours et 14 nuits, pendant lesquelles il n'avait rien à manger. Après cela, il s'est échoué sur une île, et pour couronner le tout, Alors qu'il ramassait du bois pour faire du feu, une vipère l'a mordu à la main. J'aimerais vous demander si Dieu a vraiment répondu à sa prière pour un voyage prospère. C'est très important, parce que beaucoup de gens aujourd'hui vous disent, et je peux le dire aussi, que la volonté de Dieu, c'est la prospérité. Mais ne définissez pas la prospérité selon les critères de la culture française moderne, par exemple, parce qu'il ne s'agit pas de cela. Quel est le sens réel de prospérité? Je vous propose ce que j'ai compris. C'est être complètement équipé pour faire la volonté de Dieu. Quand vous avez bien fait la volonté de Dieu, vous avez prospéré. Il se peut que vous soyez mordu par une vipère, qui sait, ou que vous fassiez naufrage. Ne vous laissez pas perturber, qu'importe, si vous faites la volonté de Dieu. Session 2. Dans notre première session de cette étude biblique, nous avons brièvement vu la structure de l'Épître aux Romains. J'ai suggéré qu'elle pouvait se diviser en quatre parties. Du chapitre 1 à 8, la base scripturale logique de l'Évangile. Chapitre 9 à 11, la théologie ou l'élection divine illustrée par le cas d'Israël. Chapitre 12 à 15, l'application de tout cet enseignement dans notre vie chrétienne. Et chapitre 16, salutations personnelles et bénédictions. J'ai aussi attiré votre attention sur la structure de base d'une épître. Elle vous donnera des renseignements sur l'auteur, sur ceux à qui elle s'adresse, et probablement une brève indication sur le thème principal de la lettre, tout ce que nous trouvons ici dans Romains. Je vous ai ensuite dit que dans cette première grande partie, les chapitres 1 à 8, nous faisions en quelque sorte un pèlerinage spirituel. Notre destination est le chapitre 8, qui représente la vie que nous devrions tous mener. Le genre de vie que je crois nous devrions tous vouloir vivre. Mais je vous ai dit que vous ne pouviez pas arriver là sans passer à travers le filtre. Vous en souvenez-vous? Le filtre, ce sont les chapitres 1 à 7. Ainsi, nous devons commencer à nous mettre en position pour passer à travers le filtre. Puis je vous ai rapidement parlé à la fin de la session précédente de la présentation que Paul fait de lui-même. D'abord un esclave, ensuite un apôtre, mis à part en particulier pour l'Évangile et plus spécifiquement pour annoncer l'Évangile aux païens. Nous allons maintenant continuer avec le résumé que vous avez dans votre livret et nous en arrivons, je crois, au prochain point qui traite des destinataires de la lettre. Dans votre plan, c'est la partie C. Revenons quelques minutes à la partie B qui est l'Évangile. Considérons ce que Paul dit sur ce peuple à qui l'Épître est adressée. Les versets 6, 7 et 8. Je vais vous lire encore une fois ces versets. J'espère que vous comprenez que la répétition des Écritures n'est pas une mauvaise chose en soi. En fait, c'est très important. J'ai formé des enseignants, j'étais principal d'un collège pour les enseignants en Afrique de l'Est pendant 5 ans. L'une des choses que nous enseignons à nos étudiants, c'est que la récapitulation est essentielle pour un bon enseignement. Alors je ne m'excuse jamais de récapituler. Romains, chapitre 1, versets 6 à 8. Parmi lesquels vous êtes aussi vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Le mot « appelé » est très important parce qu'il détermine si nous sommes chrétiens ou pas. Ceci est un peu en dehors du thème, mais vous ne devenez pas chrétien parce que vous le décidez. Vous devenez chrétien parce que Dieu vous a appelé. Vous devez répondre à l'appel, mais l'initiative, chers frères et sœurs, ne vient pas de nous mais de Dieu. Et il nous a appelés. Le mot « appelé » pourrait se traduire par « invité ». L'église en grec est appelée « ecclésia ». Le mot pour appeler est « kletos ». Ces deux mots sont directement liés. « Ecclésia » est un ensemble de personnes qui ont été mises à part. C'est ce que la préposition « ec » signifie. Nous sommes mis à part et à l'écart de quoi? Du monde, bien sûr. C'est très important de s'en souvenir. Nous ne faisons pas partie du monde, nous avons été appelés hors du monde. Si vous appartenez à la véritable église de Jésus-Christ, vous n'appartenez pas à ce monde. Vous ne pouvez appartenir à la fois aux deux. Verset 7. À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu. C'est la chose la plus importante à se rappeler. Dieu aime le peuple qu'il appelle. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Dieu nous a appelés parce qu'il nous aime. Il nous a aimés avant la fondation du monde. Il a pris toutes ces décisions importantes avant que le temps ne commence. Mais ce n'est seulement que lorsque nous entendons son appel que nous commençons à entrer dans l'expérience. Je me souviens encore très bien comment et quand Dieu m'a appelé. Je n'avais pas de connaissance intellectuelle de l'Évangile. J'étais un philosophe qui lisait la Bible comme un ouvrage philosophique. Par un étrange concours de circonstances, je me suis retrouvé dans une église pentecôtiste. Je n'y étais jamais allé, je ne savais même pas que ça existait. Ne riez pas, après tout, je ne savais pas non plus que les baptistes existaient. Mais dans cette église, Dieu m'a appelé de façon bien peu orthodoxe, puisqu'à la fin du sermon, auquel je n'ai rien compris, le prédicateur a dit « Ceux qui veulent cela, je ne sais plus ce que c'était d'ailleurs, levez votre main. » Je n'avais aucune intention de lever la main. Je trouvais indigne et gênant que quelqu'un me demande de lever la main dans un endroit tel qu'une église. J'étais là, assis en uniforme de soldat. Le silence était de plomb. Il n'y avait aucune musique de fond, rien qui puisse soulager un peu mon embarras. Et deux voix inaudibles se mirent à me parler. L'une disait « Si tu lèves la main devant cette vieille dame, toi, un soldat en uniforme, tu auras l'air vraiment stupide. » L'autre voix disait « Si c'est quelque chose de bon, pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas l'avoir ?» J'étais paralysé, je ne pouvais répondre à aucune des deux voix. Puis j'ai expérimenté mon premier miracle. J'ai vu mon bras droit se lever en l'air et je savais que ce n'était pas moi qui l'avais levé. C'était effrayant. De façon confuse, j'ai su que Dieu m'appelait. Quelque part, par intuition, je savais que je ne pourrais pas compter sur un second appel et que je devais prendre une décision. Grâce à Dieu, 5 jours plus tard, j'ai pris ma décision. Pour moi, être appelé est quelque chose de très solennel et de très sérieux. Je n'oserais jamais prendre à la légère l'appel de Dieu. Paul dit que ces chrétiens à Rome sont appelés par Dieu parce qu'ils sont aimés de Dieu. L'appel de Dieu est la mise en œuvre de son amour. Il m'a tendu la main et m'a dit « Si tu prends ma main, je te sortirai de la mauvaise passe dans laquelle tu te trouves et je te mettrai sur le rocher à côté de moi. » Je ne connaissais pas le sens de ces paroles, mais il l'a fait quand même. Paul continue au verset 7 « Appelé à être saint. » Vous noterez qu'un peu plus haut, il a dit « Appelé à être apôtre » en parlant de lui-même. Il dit aussi des chrétiens qu'ils sont appelés saints. Il se peut que vous ne le sentiez pas. Les gens ne le voient peut-être pas, mais ce que Dieu dit que vous l'êtes vraiment. Quand il vous qualifie de saint, vous finirez par l'être. Alors, ne perdez pas de temps, Dieu est sérieux. Puis il donne cette belle lecture familière du Nouveau Testament. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Quelle belle salutation! Il serait intéressant de remarquer combien de fois dans les 8 premiers chapitres des Romains, Paul utilise le nom Jésus, le mot Christ, ou le mot Messie, ou le mot Seigneur. Je crois que c'est 32 fois. C'est pourquoi l'épître aux Romains est si puissante, parce qu'elle se concentre sur l'essentiel Jésus. Si nous cessons de regarder à Jésus, et si nous regardons ailleurs qu'à lui, la puissance commence à partir, et nous devons nous appuyer sur notre énergie, sur des méthodes humaines. Lorsque notre unique désir est de présenter et d'élever le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit dit « Je te donnerai toute l'aide dont tu as besoin. » Remarquez l'ordre, la grâce et la paix. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous sont allés en Israël. Vous connaissez bien la salutation hébraïque typique, « Shalom » qui signifie « paix ». Oui, mais remarquez que dans la Nouvelle Alliance, nous avons la grâce avant la paix. La grâce est ce que nous ne pouvons acheter. Nous l'étudierons plus en détail un peu plus tard. La grâce est une faveur gratuite que nous ne pouvons mériter et que Dieu nous accorde. Nous ne pouvons la gagner ni la mériter, mais nous pouvons la recevoir. Alors, avant d'avoir la paix, nous devons nous souvenir que c'est par grâce. La grâce et la paix. Au verset 8, Paul dit « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous. » Il est très important de remarquer que Paul, presque invariablement, commence ses épîtres en remerciant Dieu pour les gens à qui il écrit. C'est un principe très important. Je dis toujours, si vous ne pouvez pas remercier Dieu pour quelqu'un, ne priez pas pour lui. Je ne pense pas que ce soit légitime. Chose intéressante, il n'y a qu'une seule exception, l'église de Corinthe, qui était dans la confusion, car il y avait de l'adultère, de l'ébriété à la table du Seigneur. Mais pourtant, Paul dit, « Je rends grâce à mon Dieu pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée. » Connaissez-vous l'église pour laquelle il n'a pas remercié Dieu? Celle des Galates. Quel était le problème en Galatie? Ni l'ébriété, ni l'adultère, c'était le légalisme. C'est la chose qui attristait profondément Paul. Il savait qu'on pouvait venir à bout de tout, mais le légalisme le déconcertait. Une chose encore à propos des chrétiens de Rome. Il dit « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Bien sûr, Rome, comme son nom l'indique, était la grande capitale de l'Empire romain, qui dominait toute cette zone de la terre à cette époque, et tout ce qui se passait à Rome affectait tout l'Empire romain. L'un des principes de Paul, dans son œuvre missionnaire, était d'aller dans les villes principales, d'aller dans les capitales. Il n'est pas allé dans les petits villages comme certains missionnaires modernes. Il n'a jamais commencé dans la jungle. Moi, j'ai travaillé avec une mission comme ça. C'était tellement romantique que nous portions de gros casques, nous empruntions des pistes, mais nous étions à côté de la plaque. L'endroit où les choses se passent, c'est la ville. Si vous touchez une ville, vous toucherez les lieux autour, parce que les choses partent de la ville. Si vous étudiez les méthodes de Paul, il touchait le cœur, il touchait la ville principale, là où il était. Il n'était pas encore allé à Rome, mais il avait là beaucoup d'amis, et il était fier du fait que tout l'Empire parlait des chrétiens de Rome. Comment cela s'était-il produit? Je pense qu'il y a plusieurs réponses possibles, mais je crois vraiment que l'outil des chrétiens le plus important, c'était leur témoignage personnel. Jésus a dit, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Vous voyez, il y avait des gens de toutes sortes de milieux, national, social, et ils disaient tous la même chose. « Cette personne, Jésus, a changé ma vie. » Et tout le monde voulait savoir qui était Jésus. Ils avaient une réponse étonnante. C'était un fils de charpentier qui avait été crucifié quelques années auparavant. Mais ce n'était pas la seule réponse. Ils disaient qu'il était ressuscité des morts le troisième jour. Je voudrais dire que de tous les moyens spirituels, et je pense qu'ils les utilisaient tous, dont disposaient les chrétiens de l'Église primitive, le plus efficace était le témoignage personnel. Maintenant, voyons dans cette partie introductive le thème principal, l'Évangile. Dans votre plan, au verset 2 à 4, puis des versets 16 à 17. Regardons d'abord les versets 2 à 4. Le premier verset finit par les mots « Évangile de Dieu ». À propos de cet Évangile, Paul dit « Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures ?» Vous verrez que Paul fait toujours très attention que personne ne pense qu'il a improvisé cet Évangile, que c'est quelque chose qu'il a imaginé, que c'est son idée. Il souligne invariablement que tout le concept et l'arrivée de l'Évangile a été clairement annoncé dans l'Ancien Testament. Il dit que tout ce que nous faisons est d'accomplir ce que les Écritures ont annoncé. C'est extrêmement important, en particulier lorsque vous êtes en contact avec le peuple juif. Vous n'êtes peut-être pas très familier avec leur façon de penser. Mais en 1979, Ruth et moi avons vécu pendant environ 3 mois à Jérusalem dans une famille juive qui ne parlait pratiquement pas l'anglais. Nous étudions alors à l'université hébraïque et nous avions choisi une famille qui ne parlait pas anglais pour nous obliger à parler hébreu. Ce fut une expérience intéressante. Nous ne nous étions jamais rencontrés avant d'arriver chez eux, car nous étions passés par une agence. C'était un couple qui avait entre 50 et 60 ans. Ils venaient tous deux de Pologne et étaient les seuls survivants de leur famille respective. Au début, nous étions très attentifs et discrets sur la façon de leur parler, et nous faisions des efforts pour nous comporter le mieux possible. Mais après un certain temps, quand la glace a été rompue, je ne sais plus pourquoi le mari m'a demandé « Comment êtes-vous devenu ce que vous êtes ?» Par un miracle de la grâce, je lui ai donné en hébreu mon témoignage personnel, ce qui n'était pas facile. Il était intéressé au plus haut point. Je lui ai alors raconté l'histoire de ma première femme, et nous lui avons prêté le livre. Je ne peux pas tout vous raconter, mais il m'a dit une chose qui m'est toujours restée. Il connaissait ce que les Juifs appellent le Tanakh, ce que nous appelons l'Ancien Testament. Mais il n'avait jamais vu un Nouveau Testament de sa vie. Quand je lui ai dit que je croyais à l'Ancien et au Nouveau Testament, il m'a posé cette question. Comment avez-vous fait la synthèse entre l'Ancien et le Nouveau Testament ? La question me révéla la profondeur de la différence entre son arrière-plan et le mien. Je n'avais jamais vu une Bible sans Nouveau Testament, et lui n'avait jamais vu une Bible avec un Nouveau Testament. Mais vous voyez, c'est ce que Paul combattait, cette séparation entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il a dit que tout ce que nous prêchons dans le Nouveau trouve son origine dans l'Ancien. Si vous voulez vraiment atteindre le peuple juif, vous devez viser à leur expliquer les choses directement à partir de leurs propres Écritures. Il y a un évangile de la circoncision et un évangile de l'incirconcision. La circoncision, ce sont les Juifs. L'incirconcision, ce sont les païens. Ce n'est pas le message qui est différent, mais l'approche. Vous pouvez aller parmi les Africains ou vers d'autres peuples et leur présenter Jésus, mais pour aller vers les Juifs, il vous faut leur montrer que c'est ce qui était promis depuis la Genèse. Ainsi, Paul, comme je l'ai dit, prenez bien soin de ne pas être accusé d'improviser quoi que ce soit. Revenons au texte de l'Évangile. Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures? Nous en arrivons à l'essence même de l'Évangile au verset 3, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, par Jésus-Christ notre Seigneur. Souvenez-vous que Christ est le mot grec qui correspond au mot hébreu « Messiah » ou « Messie ». Chaque fois que vous dites Jésus-Christ, que vous le sachiez ou non, vous dites Jésus le Messie. Et chaque fois que vous parlez du Messie, vous parlez du Christ. Il y a là encore une grande différence. Les Juifs et les chrétiens ne réalisent pas que Christ est le Messie. Quand nous parlons de Jésus-Christ, nous disons Jésus le Messie. Aussi, l'Évangile est centré sur une personne. Oui, bien sûr, sur Jésus. Paul dit de lui qu'il était le Fils de Dieu et aussi le Fils de David. Il avait une nature humaine, il avait une nature divine. Au verset 4, il a été déclaré Fils de Dieu par la résurrection d'entre les morts, selon l'Esprit de sainteté. En fait, Paul écrit en grec, mais il est évident qu'il pense en hébreu. Parfois, si vous ne connaissez pas les expressions en hébreu, vous ne comprendrez pas. L'hébreu ne parle pas du Saint-Esprit. Il parle de l'Esprit de sainteté, Ruach, Kodesh. Et donc, quand Paul parle de l'Esprit de sainteté, ma conviction est qu'il parle du Saint-Esprit. Mais il pensait comme un juif, et cela a influencé son langage. Quelle est la puissance qui a fait sortir Jésus du tombeau? Le Saint-Esprit. Qu'a fait le Saint-Esprit par cela? Il a déclaré que Jésus était le Fils de Dieu. Il a fait la différence entre lui et les autres hommes, morts et enterrés. Et il l'a déclaré Fils de Dieu, lui l'Esprit de sainteté. En tant qu'Esprit de sainteté, il a rendu témoignage de la parfaite sainteté de Jésus. S'il y avait eu quelque chose de souillé dans la vie de Jésus, il n'aurait jamais été ressuscité. Mais la résurrection attestait qu'il était vraiment ce qu'il prétendait être, le Fils de Dieu, d'une sainteté parfaite sans tache. Vous voyez, Dieu a renversé la décision de deux tribunaux. Un tribunal juif et un autre tribunal romain ont condamné Jésus à mort. Ils ont décidé qu'il devait être enseveli. Chose étrange, les incroyants semblent croire davantage à la résurrection que les croyants. L'avez-vous déjà remarqué? Les ennemis de Jésus avaient vraiment peur qu'il ressuscite d'entre les morts, mais les disciples n'arrivaient pas à y croire. Alors, après sa mort et son ensevelissement, les chefs juifs sont allés voir Pilate et lui ont dit « Nous savons que ce menteur a dit qu'il ressusciterait le troisième jour. Nous ne voulons pas que cela arrive. Pourrais-tu mettre en garde pour protéger son tombeau ?» Et Pilate a de répondre « Vous pouvez avoir votre garde et vous pouvez prendre les scellés et les mettre sur le tombeau afin que la pierre ne puisse pas être retirée sans les rompre. » Ainsi, à un sens, ces deux tribunaux ont tablé sur le fait que Jésus resterait dans la tombe. Mais le troisième jour, le tribunal le plus haut de tout l'univers a contredit leur décision et a fait sortir Jésus du tombeau. Quand les femmes sont venues, elles ont vu la pierre rouler. Voici simplement une opinion personnelle. Je ne crois pas que la pierre ait été roulée pour que Jésus puisse sortir du tombeau. Je crois qu'elle avait été roulée pour que les femmes voient que la tombe était vide. Aucune pierre n'aurait pu retenir Jésus, ressuscité. Souvenez-vous que l'Évangile est centré sur la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Si nous nous écartons de ces faits historiques, il ne s'agira plus de l'Évangile. Je dois dire qu'il existe beaucoup de prédications qui ne contiennent pas du tout l'Évangile. Celui-ci consiste en trois faits historiques certains et simples. C'est très différent d'autres religions qui ont simplement des livres sacrés présentant des vérités abstraites. L'Évangile est lié à l'histoire humaine, soit il est vrai, soit il est faux. C'est obligatoirement l'un ou l'autre. Il est aussi attesté par l'expérience humaine. Vous voyez, Dieu a eu un impact sur l'histoire humaine par Jésus. Ce qu'il a mis à notre disposition est à la fois attesté par l'histoire et confirmé dans notre expérience personnelle. Voilà l'Évangile. La bonne nouvelle. J'aimerais regarder deux autres passages qui énoncent l'Évangile, et vous verrez que dans les deux cas, l'accent est le même. Dans Romains 4, verset 3 et suivant, nous reviendrons sur cela un peu plus tard, Remarquez qu'Abraham est pris comme le modèle du croyant en Dieu et que cela lui est compté à justice. Paul continue au verset 24, « C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. » Nous y reviendrons, mais remarquons au passage que l'Évangile est centré sur trois faits historiques, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Et plus nous concentrerons notre témoignage et notre enseignement sur cette base, plus il sera efficace. Ce n'est pas premièrement une question d'émotion. Attirer les gens par des émotions produira une réponse, mais elle sera temporaire et ne durera pas. Ce que nous devons communiquer à l'esprit et à l'intelligence des personnes, ce sont ces trois faits glorieux. Jésus est mort pour nos péchés, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour. Regardons un instant 1 Corinthiens 15, le chapitre bien connu de la résurrection glorieuse. Paul dit dans les quatre premiers versets, 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu. Et qu'a annoncé Paul ? Que Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli et ressuscité le troisième jour selon les Écritures. » Qu'est-ce que l'Évangile ? Répétez-le avec moi. Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour. Redisons-le encore une fois, Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour. À partir de maintenant, ne nous laissons plus distraire de ces trois faits centraux.